Kambajina kusara kasikala eo abanyu njola mave kambaye.
Ok, ça va?
Ça va très bien.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie du philosophe Dominique Bourg qui vient de publier avec Augustin Franière une passionnante anthologie de la pensée écologique aux presses universitaires de France. On y apprend que les penseurs européens, américains et asiatiques se préoccupent des rapports que nous entretenons avec la nature depuis plus de 2 siècles. Et alors, me direz-vous, tout ça pour ça? C'est vrai, Dominique Bourg, que l'état de la planète se dégrade, le climat se réchauffe, certains scientifiques affirment que nous faisons face à la 6e crise d'extinction de la biodiversité. Bref, tous les feux rouges clignotent, et même si dans cette émission nous mettons régulièrement en avant sous forme de reportages ou de témoignages les initiatives qui vont dans le bon sens, on se dit bien quand même que c'est trop lent. Donc tout ça pour ça.
Absolument, c'est assez décourageant hein, quand on regarde les choses. Alors effectivement, il y a de multiples initiatives qui sont très intéressantes à des échelles diverses, mais globalement, elles n'arrivent pas encore à inverser la machine et l'ensemble des indicateurs continuent à rougir, hein, et de plus en plus sombre. Alors ce qui est assez intéressant dans cette pensée écologique, c'est quand on regarde les premiers textes au 19e siècle, on a des intuitions fulgurantes chez un George Perkins Marsh, donc du côté anglo-saxon, chez un Eugène Hussard, côté français, etc., de la possible issue tragique de toute cette aventure.
Oui, c'est incroyable. On parle déjà des conséquences des émissions de CO2 sur le climat de la planète. On parle déjà de la déforestation.
Tout à fait. Alors, la déforestation, on l'expérimente. Hein. On l'expérimente et elle a atteint, dans l'hémisphère nord, son point maximal à peu près vers la fin du deuxième tiers du 19e siècle. Mais ce sont des intuitions qu'ont ces gens. Toutes les connaissances n'étaient pas disponibles et celles qui étaient déjà disponibles, il y en avait, ils ne les possédaient pas. Mais, en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que cette tonalité apocalyptique va disparaître à un moment donné. Et puis en fait, elle ressurgit tout d'abord à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la question nucléaire. Et puis je dirais qu'elle va un peu structurer la pensée écologique. Il y a un très beau livre dans quelques mois qui paraîtra sur ce sujet de Hicham Stéphane Afessa. Mais alors, surtout, ce qui est vraiment important, c'est que ce ton apocalyptique apparaît aujourd'hui, là on ne l'attendait pas du tout, dans la littérature scientifique elle-même. Et ça, c'est déjà moins drôle.
Ben parce que c'est réaliste, hein. C'est vrai que les scientifiques font leur travail, mais c'est comme s'ils étaient un peu déconnectés finalement de ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Par exemple, le 10 décembre dernier, ça ne vous a peut-être pas échappé, hein, le Parlement européen a rejeté l'interdiction de la pêche en eau profonde. Alors Gilles Boeuf, qui est président du Muséum français d'histoire naturelle et titulaire de la chaire du développement durable du Collège de France, avait réagi à cette information dans ce studio.
Mon métier aujourd'hui, c'est pas du tout moi de m'attaquer à une profession ou à quelque chose. C'est de faire réfléchir effectivement à la façon dont on vit et d'arrêter une fuite en avant en permanence basée sur des systèmes qui ne soient pas durables. En fait, on me dit souvent, Gilles, vous voulez sauver la planète. Pas du tout. Je dis souvent, d'ailleurs, elle s'en fout, la planète qui est des humains dessus. Ce que je veux faire, c'est que l'humain ne soit pas trop en mal-être sur cette planète. Et ça fait 30 ans que j'ai été élevé dans un port de pêche, hein, et puis je suis toujours dans un petit port de pêche. Et j'ai beaucoup d'amis de pêcheurs et de chalutiers également. Et je leur pose la question depuis très longtemps. Est-ce que ton fils sera pêcheur? Et jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, pratiquement toujours, ce sont souvent des fils de pêcheurs, des petits-fils de marins pêcheurs. Et j'ai beaucoup de respect pour la profession. C'est un rude métier, très dur, qu'il faut absolument pas dévaloriser. La question, c'est que on me dit maintenant, mon fils ne sera plus marin pêcheur. Tout simplement parce que j'ai un ami en Corse qui faisait des langoustes et qui me disait, mon arrière-grand-père mettait, je sais plus, 100 casiers, il prenait 50 langoustes, et maintenant, aujourd'hui, avec 100 casiers, j'en prends 3 ou j'en prends pas. Donc ça veut dire que le marin-pêcheur lui-même est concerné. Ce que je ne comprends pas, c'est que les pêcheurs ne mettent pas en place eux-mêmes les mesures. Moi, je ne crois pas à un système où il n'y a pas de discussion entre la profession qui travaille et des gens qui décident. C'est pareil pour les quotas. Simplement, ce qu'il faut arrêter, c'est la fuite en avant à très court terme. Il faut travailler à beaucoup plus long terme et il faut travailler sur une culture de l'impact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je chalute ici, qu'est-ce qui va se passer immédiatement dans 5 ans et dans 10 ans? Je ne comprends pas que les pêcheurs n'aient pas ce genre d'approche entre eux. Je pense que c'est toute l'économie qu'il faut reprendre. Hein. Quand je vois, par exemple, qu'il a été débarqué un thon et qu'il a été vendu à Tsukiji au Japon en janvier, plus de 1 million d'euros à un poisson, ben je ne comprends pas. Moi, je me dis, un poisson comme ça, que le pêcheur qui est allé le chercher soit rémunéré, d'accord, mais 95% de ce prix devrait être remis dans un fonds d'études des stocks en question, de protection de ces systèmes. Le pêcheur, pour moi, est le premier intéressé par le maintien de la ressource. Et le fait ici d'avoir chaluté, aujourd'hui Philippe Curie nous dit qu'on a chaluté à peu près 50% de tous les plateaux continentaux de la planète. Et il nous dit aussi, on a fait disparaître en 15 ans, entre 50 et 90% de tous les grands poissons pélagiques. Moi je suis entièrement d'accord sur le ciblage des territoires effectivement sur lesquels il faut aller, mais je ne crois pas à une durabilité sur des espèces qui vivent très longtemps, qui se reproduisent pas beaucoup. Et franchement, ce qu'on oublie sur les grands fonds, c'est extrêmement stable depuis très longtemps. Ça fait 100 millions d'années que ça ne bouge pas. Au fond, on a la même température, la même noirceur, la même salinité, la même acidité. Chaque perturbation va être beaucoup plus durement ressentie que sur le plateau continental. Et moi, je pose la question, est-ce qu'on a besoin de cette ressource, c'est tout ?
Voilà, une vraie question, Dominique Bourg. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même certains groupes européens de la grande distribution qui ont annoncé qu'ils allaient renoncer à ce type de pêche qui va toujours donc plus profond pour pêcher des poissons de plus en plus petits. Mais il y a d'autres acteurs qui ne s'en préoccupent pas du tout. Alors, dans votre anthologie de la pensée écologique, vous expliquez, en fait, et on le voit bien avec ce témoignage de Gilles Boeuf, qu'il y a un décalage entre ce que vous appelez les sciences éclairantes et les sciences agissantes.
C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'effectivement, on a des sciences éclairantes qui nous montrent que finalement, 80-90% de la biomasse des océans a disparu et on continue des pratiques qui sont complètement stupides.
Même si on en connaît très peu finalement de cette biomasse.
Voilà, mais probablement, c'est-à-dire effectivement avec le chalutage profond, etc. On peut voir certaines estimations en couleur, on marque, si vous voulez, on prend une carte 1900 puis on voit les plateaux continentaux qui étaient assez colorés. Vous prenez la même carte d'après nos estimations aujourd'hui, bien il n'y a plus de couleur. Donc on a en fait fait avec les océans ce qu'on a fait avec les sols, avec les sous-sol, on a fait une razzia sur tous les métaux, etc., accessible jusqu'à 100 mètres. Bon. Et ça, c'est le résultat de la société occidentale moderne. Elle a été pensée pour ça. Les Locke au XVIIe siècle, toute cette philosophie du contrat qui va exploser un petit peu, si vous voulez, avec les Lumières, elle a vu dans la société et l'organisation politique ce qui allait permettre à chacun de produire et de consommer un maximum.
Quand
et
vous parlez du contrat, vous faites référence au contrat social de Rousseau, alors, par exemple.
Alors, Rousseau, c'est l'exception, si vous voulez. Bah, plutôt Hobbes, Locke, c'est vraiment les grands, non, ça va monter plus loin, mais les grands fondateurs de la philosophie du contrat. Et alors, Locke, c'est lui vraiment l'auteur le plus important. Locke au service de grands propriétaires, pour lui, la propriété est le fondement de la société. Et il va même jusqu'à dire qu'effectivement, est légitime celui qui s'est vraiment exploité ses terres. Et donc, il a droit même à plus de terres que celui qui ne sait pas les exploiter, qui du coup pratiquement perd ses droits. Donc, on a conçu nos sociétés occidentales comme des machines qui allaient permettre aux individus de produire un maximum et d'accumuler un maximum de richesses matérielles. Alors, on l'a fait. Et puis bien écoutez, le pêcheur moyen, il a encore un peu toujours ça dans la tête, c'est pas facile.
Alors il y a quand même des contre-pouvoirs qui sont nés dans les années 70, on connaît les grandes ONG, WWF, Greenpeace, les Amis de la Terre, etc. Au même moment naissaient les premiers courants politiques en France, par exemple, on se rappelle de René Dumont, qui a été le premier candidat écologiste à se présenter à une élection présidentielle, c'était en 1974, il avait récolté 1,32% des votes, mais c'est vrai que le parti écolo français, qui vient de fêter ses 30 ans, avec Eva Joly, la candidate Europe Écologie Les Verts, a recueilli 2,31% des suffrages au premier tour de la présidentielle de 2012. Alors vous écrivez carrément que, en fait, ce parti n'aurait jamais dû être créé.
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un comme Charbonneau avant même qu'il ne soit créé.
Oh oui, vous le dites aussi.
Moi je le dis très explicitement.
Clairement.
Je pense qu'il ne peut pas jouer son rôle. Parce que précisément, il enferme la cause écologique, d'une part, dans une cause extrêmement partisane, en la rendant solidaire d'autres problèmes qui ne sont pas forcément ceux-là, et puis parfois avec un radicalisme qui n'est pas toujours de bon aloi. En fait, le problème, c'est que la pensée écologique devrait nous amener à reconstruire une alternative droite-gauche d'une façon différente de la manière dont elle s'est construite. Elle s'est construite justement par rapport à la philosophie du contrat et sur le fait de savoir quelles étaient les meilleures conditions pour produire de la richesse et quelle était la distribution la plus juste de la richesse produite. Alors, l'écologie permet de déplacer le problème. Si on veut continuer à produire et à jouir de la richesse, il faut absolument qu'on commence à préserver ces biens communs, ces biens publics qui n'appartiennent à personne, que sont la stabilité du climat, que sont une certaine forme de richesse en termes de biodiversité, que sont les sols, etc. Et donc, eh bien, il faudrait qu'on arrive à retrouver, si vous voulez, un jeu d'opposition dynamique, mais sur la base du respect de ce qui conditionne toute production à l'avenir et toute jouissance possible de la production. Et je rajouterais, si vous voulez, que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et ça me paraît très important, on va devoir faire certains efforts, consentir à changer les modes de vie. Si vous ne resserrez pas les niveaux de revenus dans la société, aujourd'hui vous avez 1% de la population qui possède plus de 50% des richesses. C'est absurde, c'est complètement idiot. Vous ne pouvez pas rentrer dans une société plus respectueuse des fondamentaux de la vie si vous ne resserrez pas l'échelle des revenus.
Et pour vous, ce n'est pas le politique qui peut impulser le changement, pourtant...
Si, j'ai pas dit que le politique ne peut pas, mais c'est un politique transversal tout le monde doit s'emparer de ça.
En 2011, vous aviez poussé Nicolas Hulot à se présenter aux primaires des Verts.
Et j'ai fait une belle bêtise.
Bon, allez, faute avouée à moitié pardonnée.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, nous sommes en compagnie du philosophe Dominique Bourg qui vient de publier une anthologie de la pensée écologique qui est passionnante et déprimante à la fois parce qu'intellectuellement tous ses écrits sont extrêmement stimulants mais dans la réalité l'inertie collective est impressionnante. Par exemple, vous rendez hommage aux grandes conférences internationales en rappelant que c'est le 3 décembre 1968 que l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte une résolution sur l'organisation d'une conférence mondiale dédiée à l'environnement, conférence qui a eu lieu à Stockholm en 1972. Alors c'est vrai que c'est l'entrée des questions environnementales dans l'agenda, dans les grandes institutions internationales. C'est point de départ d'une série de rendez-vous planétaires, et là aussi un peu tout ça pour ça.
Alors oui, Stockholm, donc juin 72, c'est en fait une réussite. Parce qu'à l'époque, on pointe les problèmes de pollution. Donc quand vous avez affaire à des problèmes de pollution, les solutions peuvent être technologique. Hein. Il faut produire mieux.
Puis on est sur du local.
On est sur du local et puis on peut mettre des filtres sur les cheminées d'usines, etc. Voilà, donc Stockholm a eu pas mal de résultats. Mais je dirais que maintenant, les problèmes de pollution ne sont qu'un petit aspect des problèmes d'environnement. Si vous voulez, on a deux fronts différents. On a un front sur les ressources, ressources fossiles, métaux, même minéraux, ressources biotiques, eau douce, etc. Et là, franchement, la situation est assez dramatique pour chacune de ces ressources. Et puis, on a un problème de capacité de charge. qu'est-ce que le système biosphère peut endosser par rapport à nos activités, par exemple en termes de rejet de gaz à effet de serre. Et donc là aussi, la situation est très critique. Mais c'est plus le même problème. C'est un problème de flux de matière et de flux d'énergie qui sont trop importants. Le CO2, c'est pas un polluant. D'ailleurs, les plantes adorent ça, hein, elles s'en gavent. Et puis, sans CO2, sans autres gaz à effet de serre, la planète ne serait pas viable pour l'espèce humaine et pour la totalité des autres espèces. Donc le problème, c'est qu'il faudrait réduire nos flux de matière, réduire nos flux d'énergie. Alors, en dehors de consommer moins, on ne sait pas faire. Et quand on dit consommer moins, on est en général assez mal entendu.
Oui, c'est là que ça coince. Alors l'un des défis les plus urgents aujourd'hui, hein, vous venez de l'évoquer, c'est d'enrayer les changements climatiques. La Convention des Nations Unies sur le climat a été créée en 1992. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, publie cette année son 5e rapport. Et les négociations internationales piétinent, hein, comme nous avons pu encore le constater lors de la dernière conférence à Varsovie en novembre dernier, avec le climatologue Hervé Le Treut et Laurence Toubiana, directrice de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Au-delà de 2 degrés, le système climatique évolue dans une mesure qu'on a du mal à anticiper et prévoir. C'est-à-dire que jusqu'à 2 degrés, on est un petit peu dans le même monde. Mais par contre, quand le réchauffement s'amplifie, on a des acteurs qui entrent en jeu, qui sont différents, des courants scéniques qui peuvent changer, des glaciers qui évoluent plus rapidement. Donc toute une série de choses qui peuvent se produire de manière plus rapide et plus déstabilisante à partir d'un certain réchauffement.
En quoi le continent africain va être plus impacté que d'autres ?
Le continent africain, c'est un des continents où on attend une croissance démographique très forte. C'est aussi un continent qui n'a pas tout à fait réussi la révolution verte. Et certains estiment, par exemple en Afrique de l'Ouest, les gens de nos laboratoires, que pour avoir une alimentation de type occidental pour la population africaine au milieu de ce siècle, il faudrait multiplier la production agricole par 5. Au contraire, le réchauffement climatique a plutôt tendance, dans les régions très chaudes, à diminuer la production végétale. Donc on se trouve effectivement face à une pression accrue sur un continent qui se développe, mais qui subit des pressions liées à la démographie, liées à différentes zones de pauvreté, de guerre, etc.
C'est vrai que depuis le début des années 2000, et depuis Copenhague en plus, c'est encore plus frappant, la croissance des émissions de gaz à effet de serre a été forte. Elle a quand même tendance à se ralentir, enfin, la croissance se ralentit, mais ça continue à augmenter. Avec des choses préoccupantes, bien sûr, puisqu'un certain nombre de pays développés, je pense au Japon, à l'Australie, au Canada, ont quand même, pour l'instant, dit qu'ils arrêtaient même de faire des efforts, ou en tout cas, ont commencé à donner des signaux extrêmement négatifs. Cela dit, cette dynamique très préoccupante, elle est aussi liée à l'inertie des systèmes. C'est vrai que si on pense que 2009, c'était pour beaucoup de pays le moment où on pouvait plus reculer à la prise de conscience, les choix et donc les politiques à mettre en place pour agir. Eh bien, en 2013, l'inertie est tellement grande, c'est très compliqué de réduire les émissions. Alors, on peut faire des choses à très court terme, mais l'essentiel, c'est faire des choses sur les bâtiments dans les pays développés, c'est changer de la politique de transport, c'est changer la partie industrielle de l'économie.
Notre
consommation des énergies fossiles pour les remplacer par des énergies renouvelables ou d'autres choses. Mais même pour un pays comme la France, où on a en principe d'autres sources d'énergie que les fossiles, c'est quand même 70% hein, de l'énergie, c'est du pétrole, du gaz. Donc tout ça, le système a énormément d'inertie.
Alors la France qui va accueillir la conférence sur le climat à Paris en 2015, Dominique Bourg espère obtenir un accord qui engagera enfin les 195 pays membres de la Convention des Nations Unies sur le climat à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais quand vous entendez cela, vous continuez à affirmer que les grandes conférences internationales jouent quand même un rôle important.
Alors, je vous ai dit, j'ai bien fait la différence entre, si vous voulez, 72, hein, où on avait affaire à des problèmes de pollution, par rapport auxquels on peut trouver des solutions technologiques, et puis maintenant, le problème, alors avec les gaz à effet de serre, c'est très clair, hein, ça vient d'être rappelé, c'est 80%, les énergies fossiles, c'est 80% de l'énergie qu'on consomme au monde. Alors là, il n'y a pas de substitut technologique, et en tout cas, c'est pas très simple. Même si vous, par exemple, si vous produisez l'électricité non carbonée, entre guillemets, avec de l'éolien, avec du des panneaux photovoltaïques, eh bien en termes d'intensité matérielle, c'est-à-dire que la quantité de matière et souvent des métaux rares, semi-précieux, que vous mobilisez au kilowattheure produit est plus importante avec un panneau solaire, enfin certains types de panneaux solaires, et puis une éolienne par exemple puissante, hein, avec des aimants particuliers, par rapport à un barrage, même par rapport à une centrale thermique, etc. Donc en fait, si vous voulez, on a besoin d'énergie pour produire ces sources d'énergie, donc on est un peu pris dans un cercle vicieux. Donc voilà, quand on n'a pas une solution technologique simple, quand il faut changer les comportements, on voit bien, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, on commence quand même à arriver dans une zone quand même extrêmement dangereuse.
Oui, parce que limiter aujourd'hui le réchauffement du climat de la planète à 2 degrés, c'est fini.
Plié. Non, c'est franchement plié. En fait, si vous voulez, s'il y avait un accord à Paris, il faudrait diviser en moyenne à l'échelle mondiale nos émissions de 5% par an. Donc, par exemple, les États-Unis, ça serait 30%. La France, 25%, j'en sais trop rien. Donc, c'est vraiment plié. Et puis, alors, à partir de 2027, quelle que soit la réduction qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est fini. Si vous voulez, il y avait une fenêtre d'opportunité. Je dirais qu'on l'a pratiquement refermée en 2009 à Copenhague. Maintenant, attention, plus on est proche de l'objectif des 2 degrés, c'est pour ça qu'il faut le garder, plus on se maintient proche de l'objectif des 2 degrés, moins les dégâts seront importants.
Alors, ce qu'on lit beaucoup dans votre anthologie, on a l'impression que c'est ça aussi qui empêche de lutter aujourd'hui contre les changements climatiques, c'est cette croyance en la technologie. On pense qu'on va toujours pouvoir s'en sortir.
Alors, c'est la naïveté de la civilisation occidentale. Elle en est même presque risible.
En même temps, les pays du Sud appellent à un transfert de technologie.
Ah mais si vous voulez, c'est cette fascination pour les techniques, elle a gagné la planète. Il n'y a plus que quelques peuples résistants. Je ne sais pas moi, les Kogi, les Guarani, les Moklen. Il n'y a plus que quelques peuples sages qui résistent. Mais la folie s'est emparée de l'humanité entière. Cette espèce de credo naïf a envahi tous les esprits.
Alors, la difficulté qu'on a, évidemment, c'est qu'on invente des biens et des services nouveaux qui débouchent, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, sur de nouveaux flux d'énergie, des nouveaux flux de matière. Mais est-ce que ce qui rend difficile la perception de ces enjeux, c'est pas justement l'invisibilité, l'imprévisibilité des résultats? On a l'impression que c'est très éloigné du quotidien des gens qui nous écoutent.
Alors je dirais que c'est le gros problème. Hein. Si vous voulez, là où les hommes réagissent, c'est lorsqu'ils s'infligent les uns aux autres des dommages immédiats. C'est la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fie. Alors, la règle d'or n'a jamais empêché qu'on ne casse pas les pieds aux voisins, vous le savez. Mais en tout cas, elle génère un mécanisme universel auquel personne ne peut échapper. Quand j'enfreins la règle d'or, quand j'impose des dommages à autrui, je suis dans l'obligation de me justifier. C'est ce qu'avait compris Gandhi. Si vous ne répondez pas et fermement et courageusement à la violence d'autrui, bien finalement, alors vous allez peut-être le payer cher dans un premier temps, mais finalement, comme l'a montré Gandhi, vous enrayez le mécanisme de justification et donc vous mettez fin à la violence. Et toute la difficulté avec nos problèmes d'environnement, eh bien on n'est pas dans des dommages de proximité. On suscite des dommages à distance dans le temps, à distance dans l'espace, avec des chaînes causales extrêmement complexes que n'importe quel gogo peut se permettre de contester sur la scène publique. Donc, la règle d'or ne marche pas.
Avec de nombreux lobbies, du coup, qui ne s'en privent pas, bien entendu,
avec
puisqu'il y a quand même
derrière,
beaucoup d'intérêts économiques en jeu dans ces changements d'adaptation.
Ça leur est d'autant plus facile qu'on n'est plus sur ce mécanisme et qu'on n'est pas dans des dégâts de proximité. Or, l'équipement, si vous voulez, moral natif de l'humanité est pris en porte-à-faux par rapport à ça.
Résultat, et c'est un peu la fin de votre anthologie finalement, nous sommes entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère géologique où l'impact de l'humain est supérieur à tout impact.
Absolument. Les hommes ont vraiment refaçonné la planète, alors de façon un peu stupide, parce qu'on est en train de la façonner de telle sorte que ça risque que de nous être très dommageable. Alors, c'est pas la planète, hein. Buff le disait tout à l'heure, c'est très clair. Le problème, c'est pas la planète. C'est l'espèce humaine et les autres espèces qu'on est en train de condamner avec nos agissements.
Oui, parce qu'il faut rappeler que nous dépendons de ces écosystèmes, même si on a tendance à l'oublier.
Alors, sans écosystèmes, sans les fournitures de ces écosystèmes, sans les services qu'ils nous rendent, on crève du jour au lendemain.
Alors, il y a un aspect qui est intéressant aussi dans votre anthologie, c'est que finalement, on s'acharne à faire l'autruche, parce qu'on a le sentiment qu'on peut substituer un capital reproductible à un capital naturel. C'est-à-dire qu'on crée de nouveaux écosystèmes en se disant, bon, voilà, c'est pas très grave, puisqu'on arrive, par exemple, c'est ce qu'on, quand on compense, on détruit une forêt, bah c'est pas grave, on va en planter une autre ailleurs. Mais ça, pour le coup, ça existe depuis longtemps dans la pensée écologique, mais ça ne marche pas.
Alors, le premier à avoir dénoncé ça, c'était Givens, hein, donc avec la question du charbon à l'époque. Mais en fait, effectivement, ce qu'on ne voit pas quand on s'exprime comme ça, quand on parle de substitution du capital reproductible, c'est-à-dire en fait des techniques, hein, au capital naturel qu'on a détruit, eh bien, on ne voit pas qu'on s'exprime très mal. On ne substitue absolument pas du capital technique au capital naturel qu'on a détruit. Simplement, avec de nouvelles techniques, on va exploiter des compartiments de la biosphère qu'on ne savait pas exploiter avant. C'est par exemple le gaz de schiste. Le gaz de schiste, ok. Au mieux, si vous voulez, les gaz et les huiles de schiste, c'est peut-être 350 milliards de barils, avec une consommation de 90 millions de barils par jour. C'est une embellie d'une quinzaine d'années, si on arrive à tout exploiter.
Donc, avec des gaz à effet de serre, en plus.
Alors, c'est très émetteur, parce qu'il y a des fuites, il y a plein de petits puits, il y a des fuites de métal. Au bout du compte, c'est aussi polluant, probablement, que le charbon. Mais bon, sans compter les problèmes d'eau, les problèmes de destruction des sols, etc. Bon. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que, ben voilà, on ne fait jamais que reculer pour mieux sauter. Hein. On ne fait jamais que, ben voilà, comme on l'a fait avec la pêche, si vous voulez, on a des techniques plus importantes qui nous permettent d'aller à chercher des pauvres poissons des profondeurs, et puis on les négocie, on les détruit finalement en peu d'années. Alors, c'est ça qu'on a fait avec les techniques. On ne solutionne rien. On fait un pas en avant dans une destruction globale, et à un moment donné, on va devoir payer la note, et elle risque d'être extrêmement salé.
Vous êtes très pessimiste finalement.
Alors pessimiste, bah oui. Si je regarde les, si vous voulez, les grands indicateurs, je ne peux pas ne pas être pessimiste. Sinon, je serais un plaisantin. En revanche, bien, je voudrais au moins finir sur une note plus positive. C'est qu'en même temps qu'on est dans cette espèce de folie, vous voyez partout plein d'initiatives, de petits collectifs. Alors ça va être les villes lentes, ça va être les villes en transition, ça va être le mouvement Un Monastery, lorsque les gens font une petite communauté laïque, mais avec quand même une spiritualité. On voit plein d'initiatives. Et c'est petit pour le moment, mais c'est dans le monde entier et c'est très inventif. Alors peut-être qu'au travers de l'horreur, on va générer une société moins stupide, plus spirituelle et plus juste.
Merci beaucoup Dominique Bourde d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La pensée écologique. C'est une anthologie que vous avez co-publiée avec Augustin Franière aux éditions Presse universitaire de France. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Écrivez-nous, on adore vous lire, soit par mail, c'est pas du vent, @rfi.fr ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, # c'est pas du vent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.